Bonjour, la Suisse n'a pas atteint ses objectifs en matière de changement climatique, un constat dressé dans le rapport sur l'environnement publié ce matin. Le pays s'est notamment réchauffé de près de 2 degrés en 40 ans. Le progrès ne s'est pas non plus fait sentir pour la qualité de l'air et de l'eau, nous dira Christelle Domingeau. Anne-Marie Maïra, chef de la section environnement, développement durable et territoire à l'Office fédéral de la statistique, sera avec nous. On s'intéressera aussi à la destruction de 7,5 tonnes de miel turgovien, du miel contenant trop d'antibiotiques, en cause les traitements contre le feu bactérien. Nous appellerons Olivier Félix à l'Office fédéral de l'agriculture et nous évoquerons également la présence dans la chaîne alimentaire japonaise de viande de bœuf contaminée à Fukushima. Le collectif du Jasmin en appelle à la solidarité de la Suisse avec le peuple syrien. Une lettre ouverte en ce sens est adressée à la conseillère fédérale Micheline Calmiret. Vaj Zimmermann pour le collectif du Jasmin nous expliquera les raisons de cette nouvelle démarche. Et puis dans 20 minutes, vous entendrez un supporter bien particulier du Tour de France, le Belge Lucien Bliot, 86 ans, 37 tours à son compteur. Il ne compte plus les kilomètres parcourus par passion. Juliane Cosandier aura passé 16 ans à la tête de la Fondation de l'Ermitage à Lausanne, mais l'aventure prendra fin officiellement début août, puisqu'elle quittera la direction du lieu. L'Ermitage, fondé en 1984, a vu défiler plus de 2 millions de visiteurs. Bilan avec Juliane Cosandier en fin de journal. Pluie et nuages vont nous accompagner jusqu'à ce soir, 22 degrés côté température. Une accalmie est annoncée dès demain matin. Les prévisions météo d'Éric Faucher, c'est dans une demi-heure. La Suisse n'a pas atteint ses objectifs en matière de changement climatique et de conservation de la biodiversité. Le rapport bisannuel sur l'environnement publié aujourd'hui dresse un tableau pas toujours très réjouissant de la situation. Plus d'un tiers des espèces de plantes, d'animaux et de champignons inventoriés est menacé. Et la Suisse n'a pas réussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 8% entre 2008 et 2012, comme elle s'y était engagée en ratifiant le protocole de Kyoto. Christelle Domingeau.
Oui, la Suisse n'en est pas très éloignée, mais la réduction des gaz à effet de serre par rapport à 1990 culmine à 6,8% au lieu donc des 8 promis. Il faudra donc acquérir plus de certificats d'émissions étrangers. La procédure est d'ailleurs déjà lancée. On constate aussi que les températures ont augmenté de 1,8 degré depuis 1970 et que la décennie 2000-2009 est la plus chaude jamais mesurée. Autre objectif raté donc, il concerne la biodiversité. Près de 40 000 espèces de plantes, d'animaux et de champignons sont connues en Suisse. 13 500 sont étudiées et inventoriées et 3 700 d'entre elles sont actuellement sur liste rouge, des espèces menacées par l'urbanisation croissante, l'agriculture intensive et l'extension des infrastructures de transport. Le Conseil fédéral est justement en train de préparer une stratégie nationale sur la biodiversité qui sera soumise au Parlement au début de l'année prochaine. D'une manière générale, de nombreux progrès ont été réalisés en matière d'environnement jusqu'à l'an 2000, mais ça stagne un peu depuis, notamment en ce qui concerne la qualité de l'air et de l'eau, qui est globalement bonne, même si des micropolluants restent détectés dans l'eau et les valeurs limites de poussière fine, d'ozone et de dioxyde sont régulièrement dépassées dans l'air.
Bonjour Anne-Marie Maïra.
Bonjour.
Chef de la section environnement, développement durable et territoire à l'Office fédéral de la statistique. Les progrès en matière d'environnement stagnent depuis l'an 2000, ça fait 11 ans, donc c'est un peu long. Comment est-ce qu'on explique ?
Alors, on peut expliquer la stagnation, enfin la stagnation de ces projets par le fait que on a résolu beaucoup de problèmes. La qualité des eaux s'est améliorée, comme vous l'avez dit, la qualité de l'air aussi. Et plus pour améliorer encore les choses, les technologies deviennent plus poussées, plus fines, plus elles sont plus difficiles à mettre en œuvre.
Ah,
donc
c'est
un des éléments, c'est beaucoup plus compliqué. L'autre élément dont il faut aussi tenir compte, c'est que, ma foi, la croissance de la population depuis 20 ans est de 15%. Donc, le fait qu'il y ait plus de monde, forcément, il y a plus de monde qui consomme. Et la consommation, qu'elle soit au niveau des carburants, des combustibles pour les gaz à effet de serre, par exemple, ou de l'eau, forcément, au bout de la chaîne, provoque des pollutions qui sont un peu plus importantes.
La qualité de l'air, la qualité de l'eau sont plutôt bonnes, hein, Christelle Domingue, je l'ai expliqué, mais il y a quand même des zones d'ombre, hein, les poussières fines, ça c'est pour l'air, les micropolluants, c'est pour l'eau, c'est ça qui pose toujours problème dans la lutte justement contre ces polluants ?
Effectivement, pour ce qui est de l'air, les poussières fines, il y a aussi le problème de l'ozone et du dioxyde d'azote, sont surtout liés aux périodes de stabilité barométrique, qu'on appelle le smog estival ou smog hivernal. où les mouvements dans l'atmosphère ne sont pas suffisants pour éliminer ou pour déplacer ces polluants qui ont tendance à stagner.
Le changement climatique, un défi évidemment pour la Suisse, malgré les engagements pris en ratifiant le protocole de Kyoto, eh bien, il y a des choses qui coincent. Ça coince où exactement, justement, pour réduire, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre ?
Alors, elles sont stables depuis une vingtaine d'années. Comme j'ai dit tout à l'heure, la population a cru de 15%, donc elles se sont stabilisées avec une croissance de la population, mais la mobilité a cru également aussi. Ça se voit dans la consommation de carburant qui est de 16% plus élevée par rapport à 1990. Par contre, au niveau des combustibles, on a une diminution de leur consommation. Donc, je parle beaucoup de carburant et de combustible parce que ce sont les produits fossiles et les produits fossiles sont la combustion des produits fossiles sont les éléments les plus importants qui provoquent le plus d'émissions de gaz à effet de serre, en fait.
Je vous remercie Anne-Marie Maïra, chef de la section environnement, développement durable et territoire à l'Office fédéral de la statistique, d'avoir répondu à l'invitation de Christelle Domingeau. Une bonne journée à vous.
Merci à vous aussi, au revoir.
Et puisqu'on parlait d'environnement, revenons sur ces 7 tonnes et demie de miel turgovien propre à la consommation. La quantité sera détruite en raison de concentrations trop fortes d'antibiotiques. La nouvelle fait les titres ce matin de la presse alémanique. Une situation qui survient alors que la récolte de miel était en passe de battre des records de quantité. Ce sont les produits utilisés pour lutter contre le feu bactérien qui sont à l'origine du problème et les apiculteurs seront d'ailleurs dédommagés. Olivier Félix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du secteur produits phytosanitaires à l'Office fédéral de l'agriculture à Berne. C'est bien la première fois qu'on doit détruire une telle quantité de miel en Suisse ?
Alors, c'est pas la première fois qu'il faut détruire du miel, mais c'est la première fois effectivement qu'on doit en détruire autant.
7 tonnes et demie, on les détruit franchement comment ? Comment est-ce qu'on liquide en fait ce miel qui a été contaminé ?
Oui, écoutez, alors les détails de cette mesure, je ne suis pas au courant. Les années précédentes, ces miels ont été brûlés.
Du miel contenant donc des antibiotiques, en l'occurrence des traces de streptomycine, j'espère que j'ai bien prononcé.
Exact.
La streptomycine, qu'est-ce que ça représente comme danger pour le consommateur qui serait amené à manger du miel contaminé ?
Alors, il y a aucun danger. Hein. La valeur qui a été fixée donc, pour ces traces de résidus de streptomycine est très basse, elle est de 0,01 mg, il n'y a aucun danger pour le consommateur.
Donc on le détruit quand même s'il n'y a pas de danger, mais il y a quand même un peu trop d'antibiotiques, si je comprends bien.
Ce qu'il y a, c'est que la présence de streptomycine dans du miel n'est pas souhaitable, c'est pas souhaité, et c'est la raison pour laquelle cette valeur a été fixée très basse.
Il y aura un remboursement, on l'a dit, des apiculteurs, une destruction donc qui va quand même coûter de l'argent, même si elle est nécessaire. Est-ce qu'on n'a pas un moyen plus écologique pour lutter contre le feu bactérien, puisque c'est les produits utilisés pour lutter contre ce feu bactérien qui sont ici en cause ?
Alors pour le moment, il n'y a pas, et malgré les recherches intensives qui sont effectuées, il n'y a pas d'autre alternative que d'utiliser la streptomycine pour lutter contre le feu bactérien. Je précise qu'il y a d'autres produits également qui sont autorisés. Quand je dis qu'il n'y a pas d'alternative, ce n'est pas tout à fait exact, mais disons que la streptomycine est le produit qui a la meilleure efficacité de loin.
Et puis c'est surtout la Turgovie qui est touchée. C'est un canton qui compte beaucoup d'arbres fruitiers. Une situation identique en Suisse romande, possible, pas possible ?
Alors pour le moment, la streptomycine n'est pas utilisée en Suisse romande parce que ce produit ne peut être utilisé qu'en présence du feu bactérien, en particulier l'année précédente. La Turgovie a une situation un peu particulière avec justement l'importance du verger dans cette région, également le fait que le feu bactérien y est vraiment implanté depuis de nombreuses années.
Je vous remercie pour ces informations, Olivier Félix, responsable du secteur produits phytosanitaires à l'Office fédéral de l'agriculture à Berne, d'avoir accepté l'invitation de Michel Eman. Du miel contaminé en Suisse, eh bien le Japon est lui confronté à une nouvelle frayeur radioactive. Les autorités japonaises sont forcées d'admettre aujourd'hui que du bœuf contaminé dans la zone proche de la centrale nucléaire de Fukushima a bel et bien été vendu et déjà consommé à Tokyo, dans d'autres villes de l'archipel également. Elle ne s'explique toujours pas comment cette viande contenant du césium-137 a pu se retrouver dans la chaîne alimentaire japonaise, George Baumgartner.
Oui, les Japonais sont sous le choc. Comment est-il possible que la ville de Tokyo laisse encore ses abattoirs traiter des bovins élevés juste à la frontière de la zone d'interdiction dans un rayon de 20 km autour de la centrale de Fukushima ? D'autant qu'à cette frontière, et nous y sommes allés à Minamisoma, la radioactivité est souvent plus élevée qu'à l'intérieur de la zone d'interdiction. La ville de Tokyo confirme que de la viande de bœuf contenant des traces de césium-137, 6 fois supérieure aux normes admises, a été consommée dans des restaurants. L'éleveur mis en cause à Minamisoma a commencé par dire que le fourrage donné à ses bovins avait été importé avant d'avoir avoué qu'il était resté à l'extérieur de son exploitation au moment où d'importantes fumées radioactives s'échappaient de la centrale de Fukushima. Mais de tels niveaux de césium-137 ne poseraient pas de problème pour la santé humaine, du moins si vous n'en mangez pas chaque jour en grande quantité pendant une année.
Et d'ailleurs, Georges, depuis le début de l'accident de la centrale, il y a eu des forts taux de césium, vous l'expliquiez, dans les aliments. D'autres éléments radioactifs aussi ont été découverts dans plusieurs aliments. Visiblement, Georges Baumgartner, les autorités sanitaires japonaises ne maîtrisent pas cette situation, ce qui ne va pas apaiser les craintes des consommateurs japonais.
Non, et c'est une des retombées de l'accident de Fukushima. La chaîne alimentaire japonaise n'échappe pas aux contaminations radioactives. Le gouvernement essaie de ménager les éleveurs, les agriculteurs vivant autour de la centrale de Fukushima en évitant de décréter, par exemple, que dans un rayon de 80 km au lieu de 20 comme aujourd'hui, autour de la centrale, eh bien, il est interdit de vendre tout produit alimentaire. En ce qui concerne le traitement de la viande, les autorités gardent un œil mi-clos sur les activités des abattoirs car leurs opérateurs sont souvent des burakumin, une caste d'intouchables. Ici, des Japonais discriminés par d'autres Japonais depuis la nuit des temps. Et les burakumin disposent d'un puissant lobby politique et ils n'hésitent pas à crier à la discrimination lorsque les contrôles dans leurs abattoirs deviennent trop sérieux.
En direct de Tokyo, le point avec notre correspondant Georges Baumgartner. Et le Premier ministre japonais, Naoto Kan, a déclaré aujourd'hui que le Japon devait réduire sa dépendance vis-à-vis de l'électricité nucléaire et tendre vers une société qui puisse s'en passer. On va prendre des nouvelles de la route.
Infotrafic RSR.
Suite à la panne d'un poids lourd sur l'autoroute Martigny-Lausanne, la voie de droite est bloquée entre Vevey et Chèvre et le trafic est perturbé en direction de Lausanne. Le collectif Jasmin appelle la Confédération à se solidariser avec le peuple syrien dans sa revendication du respect des droits de l'homme. Ce groupe de Syriens de Suisse, favorable à la démocratie, a adressé aujourd'hui à Micheline Calmira une lettre ouverte en ce sens. Il demande à la conseillère fédérale de soutenir Amnesty International dans ses efforts pour soumettre le dossier syrien à la Cour pénale internationale. Wad Zimmerman, bonjour.
Bonjour.
Membre du collectif du Jasmin, pourquoi cette initiative maintenant, à ce moment précis ?
En fait, il y a 2 demandes dans cette lettre. Il y a absolument cette demande que vous avez mentionnée pour le soutien d'Amnesty International, car la Suisse, qui est un pays défendeur des droits de l'homme, elle ne peut pas rester silencieuse. Elle est silencieuse. Et elle est hôtesse de ces organisations mondiales pour la défense des droits de l'homme et elle doit aujourd'hui soutenir la démarche d'Amnesty International pour que le dossier syrien soit transmis à la Cour pénale internationale. Ça, c'est une des demandes. Mais il y a une deuxième demande qui est aussi très importante. On demande aujourd'hui à la Suisse d'inviter son ambassadeur en Syrie pour faire comme l'ambassadeur américain et français, c'est-à-dire se rendre un vendredi dans une des villes
dans
où il y a
de protestation. Ouais.
Et tout simplement, pourquoi cette deuxième demande? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a blocage au niveau du Conseil de sécurité et il est aujourd'hui donc de devoir de tous les pays démocratiques d'agir au niveau individuel pour mettre fin à la violation des droits de l'homme quotidienne en Syrie. Maintenant, pourquoi cette demande précise? C'est parce qu'elle a deux conséquences, cette visite, si on veut. S'il y a une visite d'un ambassadeur dans une ville où il y a les protestations, un, ça empêche les réactions violentes des forces de l'ordre sur place et ça nous permet de sauver des vies.
Et il y a un témoin officiel aussi.
Et il y a un témoin officiel international du pacifisme du mouvement. C'est juste pour dire au monde entier que ces groupes armés prétendus par le gouvernement syrien n'existent en réalité pas. Et que les seuls groupes armés qui se trouvent aujourd'hui en Syrie, ce sont les forces de l'ordre et les civils qui appartiennent aussi aux forces de l'ordre, qui sont habillés en civil, qui eux, ils sèment un petit peu la violence partout.
Wad Zimmerman, vous ne donnez pas d'ailleurs le nom des signataires pour des raisons de sécurité, dites-vous, dans ce courrier qu'on a reçu. Il y a même des craintes de représailles ici en Suisse ?
Alors ici en Suisse, je ne le pense pas, en tout cas je ne l'espère pas. Il y a deux raisons. Une raison, il y a toujours une insécurité que les noms soient dévoilés parce qu'il y a toujours une crainte pour la famille sur place. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les Syriens qui se trouvent ici, ils ont une seule nationalité, c'est la nationalité syrienne. Et donc, ils ne veulent pas faire quelque chose qui peut, disons, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils doivent rentrer chez eux un jour.
Je vous remercie, Vadj Zimmermann, pour le collectif du Jasmin d'avoir apporté ces précisions. Vous étiez invité par Gaëtan Vanen. Bonne journée à vous.
Bonne journée à vous.
L'économie suisse reste sur la voie de la croissance. Selon le dernier baromètre UBS, la banque maintient sa prévision de croissance du produit intérieur brut à 2,7% pour 2011 et 2,2% pour 2012. Et l'indice suisse des prix à la production et à l'importation s'est lui replié de 0,5% en juin par rapport au mois de mai, a indiqué l'Office fédéral de la statistique ce matin. En Angleterre, une telle unanimité n'avait pas été annoncée au Parlement depuis le vote sur l'intervention des troupes britanniques pour renverser Saddam Hussein. Le gouvernement conservateur va soutenir une motion des travaillistes contre le rachat par Rupert Murdoch de Sky B, le numéro 1 de la télévision payante au Royaume-Uni. Daniel Coulon.
C'est une révolte tous azimuts contre l'empire Murdoch. Dans l'opinion publique, les journaux du groupe se vendent mal après la fermeture du News of the World. Au Parlement, où les députés de tous bords vont voter ce soir sur une motion anti-Murdoch de l'opposition travailliste. Le projet de rachat par Rupert Murdoch de Sky B a été renvoyé devant la commission de la concurrence. Lorsque le scandale a éclaté la semaine dernière, le gouvernement était à deux doigts de donner son feu vert à ce rachat capital dans la stratégie économique de l'empire Murdoch. Le Premier ministre David Cameron, pour la première fois devant le Parlement depuis le début du scandale ce midi, va donner des précisions sur deux enquêtes publiques, une sur les écoutes, une sur les relations entre le pouvoir politique et la presse qui seront supervisées par un juge. La fermeture d'un nouveau journal du groupe Murdoch en Grande-Bretagne et la comparution du mania de la presse devant les députés ne sont pas pour l'instant confirmées ici. Daniel Coulon, Radio Suisse Romande de Londres.
Toujours à l'étranger, selon le ministre italien de l'économie et des finances, Giulio Tremonti, le plan de rigueur italien va être renforcé et approuvé d'ici vendredi par le Parlement. Ce plan de rigueur doit permettre à l'Italie d'atteindre un quasi-équilibre budgétaire en 2014. En Suisse, les fortes pluies et les violentes rafales de vent qui se sont abattues la nuit passée ont donné du travail à la police cantonale de Berne. Elle a reçu plus de 150 appels signalant des caves ou des routes inondées. La Haute-Argovie a été la plus touchée.
Le 12-30, Natacha Van Kutsem.
En tennis, l'Australie sera l'adversaire de la Suisse en barrage de promotion-relégation de Coupe Davis. Ce tirage au sort n'est pas très favorable car les Australiens recevront ce match sur leur territoire. Ça sera du 16 au 18 septembre, juste après l'US Open de New York. Autant dire que Roger Federer renoncera probablement à ce rendez-vous. En cyclisme, je vous le disais en titre, dernière étape pour sprinter aujourd'hui avant la montagne, 167 km entre Blélémine et Lavaur. Le Tour est chaque année un succès populaire et peut compter sur de très très fidèles spectateurs. Patrick Delétro.
Oui, lorsque l'on parcourt les routes du Tour, on remarque année après année quelques inscriptions ou quelques véhicules qui sont là tous les jours, comme ce petit camping-car et son drapeau belge sur lequel est inscrit qui crie, point d'interrogation, les lions. Référence à Claudie Criquelion, ancien coureur, dont Lucien Bliot était aussi supporter que voisin. Et le couple Bliot sillonne l'Europe pour suivre les courses. Les coureurs connaissent Lucien qui leur tend souvent une bouteille d'eau et même l'organisation lui a donné un bandeau invité afin qu'il puisse accéder plus facilement au parcours, surtout dans l'école.
Je crois que je suis un des plus anciens. Le mois prochain, je vais avoir 86 ans. Alors... On peut bien faire quelque chose pour un vieux, hein.
Et combien de Tours de France?
Eh bien, c'est mon 37e. 37e que je suis en train de faire.
Et toujours dans un camping-bus?
Oui. J'ai aménagé ça. J'ai fait tout moi-même. Je suis un bricoleur, qu'on dit.
Et madame vous suit aussi tout le temps
oui,
ou vous partez
seule
parfois?
Non. Elle vient avec, elle aime bien ça. Mm-hmm. Ouais.
Vous avez calculé un jour le nombre de kilomètres que vous faites par année pour le vélo?
Monsieur, je vais te dire la vérité. Le calcul, je ne fais pas. Parce que si vous commencez à calculer et à penser, à la fin, tu dis, oh, aïe, aïe. Non, il faut, je le fais comme ça.
Vous allez continuer tant que vous pouvez conduire?
Oui. Ah, c'est moi qui conduis tout le temps, hein, oui. Mm-hmm. Je roule encore 700, 800 ou 1000 km. Ouais. Ça ne me dérange pas. quand je reviendrai autour de Suisse, eh bien, tu viendras me dire bonjour. Hein.
Bah, avec grand plaisir. Essayez de venir autour de Romandie une fois, si vous pouvez.
Ah, je pense bien de venir une fois faire le tour de Romandie. Oui, on me dit que c'est une belle course.
Ok, très bonne journée. Allez, merci beaucoup.
Monsieur, hein. Oui, au revoir. Hein. Au plaisir.
Voilà, c'était un résumé de cette rencontre forcément plus longue avec Lucien Bliot, 86 ans, qui sera là encore aujourd'hui, sans doute dans la dernière côte, à 30 km de l'arrivée.
Patrick Deletro s'est fait un ami sur le Tour de France, un tour à suivre sur rsrinfo.ch, donc sur Internet également. Vous dire également, en bref, que le procès de la débâcle de la Banque cantonale de Genève vient tout juste de se terminer. On le rappelle, le ministère public a requis 2 ans avec sursis à l'issue d'un procès de 6 semaines à l'encontre collectivement des 5 prévenus. Et désormais, le tribunal va délibérer. Le verdict devrait être rendu en principe vendredi 22 juillet, soit la semaine prochaine. Au Festival de Jazz de Montreux ce soir, on pourra découvrir le nouveau groupe du producteur canadien Daniel Lanois. Son nouveau projet s'intitule Black Dub et c'est une première en Europe pour ce guitariste qui a plus de succès comme grand producteur des stars internationales que comme musicien sur les planches. Alain Corbalian.
En studio, il a sorti le meilleur d'artistes de l'envergure de U2, de Bob Dylan, mais aussi Willie Nelson, Brian Eno, et tout récemment, il a ranimé la braise de Neil Young. Et tous louent la finesse, la psychologie et même la philosophie de ce sorcier des sons acadiens. Mais Daniel Lanois n'a jamais rencontré le même succès comme musicien. Bien que sa Jolie Louise ait résonné un temps sur les radios du monde entier, la science de ce producteur de génie habille mieux les vieilles gloires que les concepts musicaux osés que Lanois décline depuis des années sur scène. Cela pourrait changer avec Black Dog, le nouveau groupe de Daniel Lanois. Comme son nom l'indique, il intègre des rythmiques plombées héritées de la Jamaïque, mais ne renonce ni aux orgues psychédéliques, ni aux ballades country, ni aux guitares parfaitement rock. Le Québécois Lanois s'est accoquiné avec la chanteuse Trixie Whitley, fille du mythique guitariste de blues Chris Whitley. Et du coup, on se prend à rêver. Black Dub sonne comme le blues du 21e siècle. Et peut-être enfin un projet de Daniel Lanois qui va connaître le succès populaire.
Black Dub à découvrir ce soir au Miles Davis Hall à Montreux Jazz Café, Montreux Jazz Festival et on rappelle cette adresse rtsfestival.ch. Julienne Cosandier nous a rejoint dans nos studios. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous avez passé 16 ans comme directrice de la Fondation de l'Ermitage. 16 ans, de nombreuses expositions, de nombreux succès. Sylvie Wurman vous succède, va poursuivre cette aventure officiellement dès le 1er août prochain. 16 ans, c'est une page aussi de votre vie qui se tourne. Comment on se sent?
Ah oui, alors c'est une page en effet importante puisque j'ai donné 16 ans de ma vie à cette Fondation de l'Ermitage que j'aime passionnément, que j'ai eu envie de développer et ou de réaliser de nombreux projets. Donc vous imaginez qu'en effet, il y a un petit peu de nostalgie de quitter cela et puis en même temps beaucoup de reconnaissance parce que c'est vrai que ce qui a été réalisé au cours de ces dernières années est quand même très positif, a fait plaisir, je crois, à de nombreux
à 2 millions de personnes, en tout cas,
de nombreux visiteurs.
Un bon bilan.
Et donc, c'est beaucoup de reconnaissance que vis-à-vis des interlocuteurs du conseil, de mon équipe, qui m'a permis de réaliser tous ces magnifiques projets qui me tenaient tellement à cœur.
16 ans, ça fait beaucoup de souvenirs. Si on devait en choisir quelques-uns, en tout cas un en particulier, ce serait lequel?
Ah, écoutez, chaque exposition, évidemment, je l'ai faite.
Vous êtes passionné, effectivement.
Oui, ça, je ne peux pas, je ne peux pas l'exclure. Mais c'est vrai qu'il y a des moments très forts. Il y a le moment où on attend l'œuvre dont on a rêvé qui va arriver au musée. Je me souviens, par exemple, du jour où cette statue immense de Giacometti, la femme debout, est arrivée dans sa caisse longiligne et exposer Giacometti à l'Ermitage, c'est un peu incongru en raison de nos espaces qui sont très beaux mais assez contraignants. Et tout à coup, cette sculpture qui était au sol comme une momie dans un sarcophage.
On voyait qu'elle.
Absolument, elle a été verticalisée avec mille précautions dans ce salon du rez-de-chaussée. C'était un moment très très fort.
On va aussi se souvenir de l'exposition de l'année passée. C'était un incroyable succès. Hein. Edouard Hooper, prolongation des visites. Vraiment, ça a très très bien fonctionné. Vous vous y attendiez. Bon, évidemment, l'œuvre d'Hooper est très intéressante et assez populaire, mais est-ce qu'un succès comme celui-là, on s'y attendait ?
Peut-être pas forcément. Moi, j'avais envie de montrer Hooper depuis longtemps. Ça n'était pas évident parce que les interlocuteurs principaux, les prêteurs, sont aux États-Unis. Du temps où je travaillais au Musée d'art et d'histoire à Genève, il y a un peu plus de 20 ans, Hooper avait été présenté au Musée Rath et depuis, j'ai toujours eu envie de montrer Hooper.
C'était
à
une obsession, presque.
Ah oui, 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 là, oui, oui, c'est très obsessionnel. Donc, j'ai toujours eu envie de le faire. Et voilà, ça a pu se réaliser l'an dernier. Donc, je l'ai fait parce que j'y croyais, parce que j'y tenais. Maintenant, en effet, ce succès a été au-delà de toutes nos attentes. Et c'est très, très agréable de sentir que tant de visiteurs enthousiastes viennent dans ce lieu.
Julienne Cosandier, donc 16 ans à la tête de la Fondation de l'Ermitage. Vous diriez que chaque exposition avait sa propre identité et c'est peut-être ça la raison de ce succès ?
En tout cas, j'ai vécu chaque exposition de tout mon être. Je l'ai vraiment, j'y ai projeté mon imaginaire. J'ai essayé, au fond, d'équilibrer entre les expositions plus grand public et des expositions plus pointues, parce qu'il est indispensable aussi de montrer des œuvres plus confidentielles pour la crédibilité de l'institution. Il faut une ligne. Et j'ai souhaité, par exemple, montrer l'art historique du XXe siècle avec le futurisme, Brauner, Kupka, qui sont des artistes moins connus, mais qui ont, comme je le disais, quand même confirmé la crédibilité de l'institution et ce qui est très important pour la suite.
D'ailleurs, justement, pour la suite, il faut être pointu, mais aussi un peu populaire, toucher un grand public. Qu'est-ce que vous conseillerez à Sylvie Wurman qui va prendre la tête de la Fondation des Hout ?
Écoutez, Sylvie Wurman travaille avec moi depuis 12 ans. Donc
vous êtes déjà parlé.
Elle a suivi évidemment toute la programmation des dernières années de très très près, puisqu'elle a été mon bras droit. Et donc, je lui fais totalement confiance pour trouver le bon dosage pour la suite.
Le bon équilibre. En tout cas, on la recevra également, Sylvie Wurman, pour faire justement les perspectives de l'avenir de la Fondation de l'Ermitage. Mais à vous entendre, elle va garder l'esprit aussi, Julienne Cosandier, depuis 16 ans. Elle va rester un petit peu dans votre esprit, on a le sentiment, d'après ce que vous nous dites. On va rappeler l'exposition qui est en ce moment. Hein. Je vous laisse vous la rappeler. Juste.
Alors, Van Gogh, Bonnard, Valeton, il s'agit de la collection d'un couple magnifique, Arthur et Eddie Anne Lozer, qui a vécu à Winterthur au Villa début Nostra. Du XXe siècle.
Et c'est jusqu'au 23 octobre. Donc des Cézanne, des Matisse, Van Gogh et autres, si vous souhaitez aller admirer tout ça, c'est à la Fondation de l'Ermitage, un lieu qui se situe dans les Hauts de Lausanne. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais 2 millions de visiteurs depuis 1984, il y a quand même certainement beaucoup de romans qui sont passés par la Fondation de l'Ermitage. Je vous remercie infiniment, Julienne Cosandier, et bonne suite à vous.
Merci.
Merci et bonne journée. On va terminer par la bourse suisse, l'indice SMI. Il est en hausse 0,3% à 6032 points aujourd'hui. Les prévisions météo, vous irez, tout ira mieux demain. Éric Fauchère.
Un courant du sud-ouest fait remonter sur nos régions de l'air instable, chaud et humide, ce qui rend le ciel de notre pays très nuageux avec des précipitations fréquentes. Cet après-midi, les périodes sèches se feront moins nombreuses que ce matin, avec des averses localement abondantes, notamment le long des reliefs. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Dans le courant de la soirée, une accalmie est attendue par l'ouest. Le mercure avoisinera des maxima de 22 degrés. Le vent nous accompagnera, il sera de secteur sud-ouest et soufflera fortement en montagne et modérément en plaine, avec par moments de fortes rafales de jorant au pied du Jura. Demain s'annonce changeant avec de belles éclaircies en plaine et des moments encore très nuageux en montagne. Des averses seront possibles sur les Alpes et les Préalpes. Le mercure touchera les 20 degrés au maximum. Vendredi sera assez ensoleillé sur nos régions. On notera quelques nuages plus épais sur les reliefs avec quelques gouttes possibles. Samedi commencera sous des cieux bien ensoleillés, mais une dégradation se profile pour la suite de la journée et des averses sont attendues pour dimanche.
La météo avec Crédit Suisse.
La Fondation Pierre Giannada et son exposition Claude Monet.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute Martigny-Lausanne, un poids lourd en panne bloque toujours la voie de droite entre Vevey et Chèbre en direction de Lausanne et côté tessinois sur l'axe du Gothard. 5 km de bouchons s'étendent de Quinto au portail de sud du tunnel en direction de Lucerne. Fin de ce journal. Merci à l'assistance technique, à l'ensemble de la rédaction de m'avoir aidé à préparer ce journal de 12h30. Demain, nous recevrons la directrice du festival de photos de montagne, Nathalie Erschdorfer. Excellent après-midi sur la première. Il est 13h. À demain.